Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
À la fin du 19e siècle, surgit tout un répertoire d'histoires très sanglantes à faire peur, qu'on appelle le Grand Guignol. Ce répertoire perdurera avec plus ou moins d'éclat jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Il eut ses très nombreux amateurs et ses auteurs emblématiques, comme par exemple André Delorde, qui fut surnommé le prince de la terreur et n'était pas pour rien le fils d'un médecin. Bibliothécaire, Delorde écrivait ses propres œuvres et adaptait également nombre de textes d'autres, Edgar Poe, Mirbeau, Maupassant, ou encore ceux d'Henri Bauche, comme c'est le cas ici dans ce fameux Château de la mort lente. La seconde pièce, La mascarade interrompue, est une adaptation d'une pièce d'Edgar Poe par l'écrivain Hélène Betty Louise Caroline de Zuylen de Nievelt de Haar, une authentique baronne, née Hélène de Rothschild en 1863, qui défraya la chronique en vivant avec d'autres femmes écrivains. C'est Gérard Gromaire qui eut en 1987 l'initiative de remettre au goût du jour pour France Culture quelques-unes de ses pièces mises en onde par Evelyne Frémy. Alors, attention, préparez-vous, fermez les portes et surtout, n'éteignez pas les lumières.
Grand Guignol.
Pierre-Georges Bréhand.
Gérard Gromaire.
Le programme.
Première partie, Le Château de la mort lente, de André Delorde et Henri Bauche, avec Med Hondeau, Evelyne Guimara, Philippe Mareuil, Vera Feder, Roger Brett, Jacques Berthier, Jacques Maire, René Berthier. Deuxième partie, La mascarade interrompue, de Hélène de Zuylen de Nievelt, avec Jean-François Poron, Philippe Etès, Bruno de Volder, Renaud Marx, Michel Derville, Alain Christie, Anne Deleuze, Dominique McAvoy, Catherine Hubaud. Troisième partie, Gardien de phare, de Paul Autier et Paul Cloquemin, avec Yves Arcanel et Thierry Ragneau. Réalisation, Evelyne Frémy.
À flanc d'abîme, construit en pierre philosophale, s'ouvre le château étoilé. Anticipant André Breton et le mouvement surréaliste, ces trois pièces représentent le Grand Guignol. Le château de la mort lente, la mascarade interrompue et gardien de phare.
Il faut dire d'ailleurs que seul gardien de phare, pièce courte dans la tradition de la première période du Grand Guignol, est donné ce soir en entier.
En effet. Ces trois pièces reflètent un monde clos, lieu de magie, de repliement. C'est le château, la tour, le phare. Dans ces lieux clos règne la folie ou la maladie, exactement comme dans ces demeures rêvées par les créateurs des romans gothiques. D'Horace Walpole à la Villa Diodati, hanté par Byron, Shelley, Mary Shelley et le docteur Polidori. Villa qui a été le décor du film de Ken Russell.
Mais quand même, la Villa Diodati, me semble, c'est davantage le mythe du vampire qui a sa spécificité et qui est lié aussi à Frankenstein, qui a une autre postérité.
Oui, mais le mythe du vampire fait partie, justement, du répertoire du Grand Guignol. Rappelez-vous la grande épouvante.
Mais là, nous parlons du château de la Morlande. Et je pense que ce qui est remarquable, c'est que cette pièce de André Delorde date de octobre 1918. Donc, la guerre 14-18 n'est pas loin.
Et... Non, elle n'est pas. Nous sommes à un mois de la fin. C'est-à-dire que cette pièce a presque été écrite les pieds dans la boue des tranchées.
Je veux dire, d'ailleurs, une autre pièce a été écrite dans les tranchées, c'est dans les dunes, qui présente aussi son cortège de gazés, de réfugiés et d'aveugles. Mais le château de la Morlande, justement, introduit dans le théâtre du Grand Guignol une dimension d'exotisme, parce que finalement, avec la guerre 14-18, la réalité dans l'horreur dépassait la fiction. Et le château de la Morlande, c'est un peu aussi l'Amérique qui fait trembler la France frileuse des années 20, des chercheurs d'or cambriolent un château de milliardaires, où se déroule un rituel bien étrange.
En somme, c'est la ruée vers l'or qui a mal tourné.
Absolument.
Le mauvais côté de Charlie Chaplin.
Tout à fait. Ça commence dans une ambiance de western avec bruit de saloon et piano mécanique. Un chercheur d'or, Enrique et sa sœur, ont tout perdu au jeu et décident sur le conseil justement d'un Allemand, Hermann, l'Allemand.
Donc un traître.
Le méchant, le traître.
En 18.
Absolument, de faire un fric-frac dans le beau château du Val Noir, résidence de milliardaires. Le cambrioleur et sa maîtresse ont repéré une superbe rivière de diamants que porte constamment un personnage, Maude. En fait, ce collier est un bijou piégé.
Et voici donc le deuxième acte du château de la Morlande, d'André Delorde et Henri Bauche.
Choisissez. À vous, Tristram.
17.
Je vous dois 15 000. Dites, c'est bien 15 000.
Ce doit être ici, le fumoir.
Probablement.
T'as vu les salons là-haut? Quelle richesse. Et ici?
Oui, oh oui. Mais tout est étrange ici. Croirais-tu? Je n'ai pas vu de glace.
Pas de glace?
Non. Et pour me coiffer, j'ai été obligée de me servir de mon petit miroir de poche.
C'est sûrement fait exprès. Avec tous ces détraqués, ce serait dangereux.
Comment ça?
Ils pourraient les briser et se blesser.
Combien? 2000, 5000, ce que vous voudrez.
Il joue par 5000 dollars.
Ouais, des fortunes.
Et tu n'as pas vu le vieux sur le fauteuil? Qu'est-ce qu'il a au doigt? Un gant tout en or.
J'ai vu. Et sa main qui tremble toujours.
Vraiment, ces gens sont impressionnants.
Alors, on continue? Dites. À vous de battre.
Que? Comment, mais qu'est-ce qu'il chante? On ne chante pas ici, qu'est-ce qui vous prend?
Mais on ne chante pas! Taisez-vous! Vous savez bien qu'on ne chante pas ici!
On ne chante pas!
Qu'est-ce qu'ils sont?
Tu ne sais pas. C'est bizarre.
Dix mille.
Ce n'est pas vrai. C'est pas possible.
Lake, laissez-nous tranquilles.
Ils disent qu'à Paris, oui, un grand médecin suédois, des résultats.
Mais vous savez bien que ce n'est pas possible.
Mais si, tenez. Tenez, là, voyez.
À quoi bon?
Allez-y, je vous dis.
Et c'est ça.
Vous avez vu? Nouvelle méthode.
Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai vu?
Il n'y a pas de nouvelle méthode.
Il n'y a rien. Et vous, vieille bête, vous allez me parler d'espérance quand tout le monde sait bien...
Voyons, Tristram, calmez-vous.
Moi ici. Moi, Charles Tristram, dans cette maison. Oh, ce que j'étais autrefois et ce que je suis maintenant. Je n'en peux plus. J'en peux plus. C'est au-dessus des forces humaines. J'en ai assez. Oh non. Non, je ne supporterai pas cette vie une minute de plus. Pas une minute.
Il a raison. Moi aussi, je veux...
Que va-t-il faire?
Tais-toi.
Ça ira mieux. Il faut ça. Le docteur défend, il dit... Que ça hâte. Qu'importe. Ça va tout à fait bien maintenant. Il est stupide, Lake. Il faut faire comme moi. Vous, là, il faut faire comme moi.
Ne faites pas attention, c'est l'effet de la morphine.
Ah. Et l'autre?
L'autre? Ah, il sera bientôt guéri. Et bientôt. Dormeur. Dormeur. Je vais rejoindre les autres.
Les autres? Pourquoi faire? Ils sont tous là-bas, à l'enclos des roses.
L'enclos des roses. Des roses. Pas tous, non? Pas les jeunes? Les jeunes, nous sommes tous du même âge ici, après 3 mois.
Oui, après 3 mois.
Ah, 3 mois, c'est le compte.
Mais, monsieur, dites-moi.
Quoi?
Les jeunes.
Eh bien, quoi les jeunes?
Et qu'est-ce que vous appelez les jeunes? Ah, vous voulez parler sans doute... De nouveaux arrivants, de ceux qui ne sont pas au courant des habitudes du château.
Les habitudes, les habitudes, les habitudes.
Assez, dormeur, assez. Vous m'exaspérez, vous voyez bien qu'ils font les imbéciles exprès. Ah oui, il y en a comme ça. Moi-même, au début, j'ai voulu crâner. Ah, vous êtes jeune, vous. Mais ça va vite ici. Oh, vous ne l'êtes pas pour longtemps. Bientôt, vous aurez tous les droits. Tous nos droits, mais vous serez nos égaux. Vous serez semblables à nous.
Mais, monsieur...
Oui, oui. Et vous feriez mieux, dès maintenant, de quitter ces airs-là. Vous savez, c'est... Lorsque l'homme eut mangé du fruit de l'arbre de science, Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et Dieu le chassa du jardin d'Éden. Et maintenant, prenons garde qu'il avance sa main et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il en mange et devienne immortel. Et vous avez mangé du fruit de l'arbre de mort. Ah! Vous entendez? Des roses. Des roses.
Des roses sur les blancs tombeaux.
Je croyais qu'il était défendu de chanter.
On dirait un chant funèbre.
Un chant de mort.
C'est pour celui qui s'est tué ce matin. On peut chanter pour ceux qui sont morts ou qui vont mourir. mais pour cela seul. N'est-ce pas, Norbert ? Allons, venez, je vais vous conduire à votre appartement. Vous vous y reposerez mieux qu'ici. Ah, se reposer, oublier. Vous entendez ce qu'il chante ? Des roses, il faut de la bonne terre pour les fleurs, de la terre des morts pour qu'elles vivent, de la pourriture pour les roses.
Il me fait peur celui-là, plus que les autres.
Ils ont laissé les billets sur la table.
Fais attention, ça doit être très surveillé ici.
Et pourquoi tu dis ça ?
On ne s'aperçoit pas de la surveillance, mais il me semble qu'il y a des yeux partout. Des yeux invisibles.
Oh.
On ne voit personne, pas de domestique, rien. Et cette impression de mystère et de solitude. Depuis hier soir que nous sommes arrivés, tout ce que nous voyons est étrange. Pourquoi n'y a-t-il pas de salle à manger ? Les repas ? Pourquoi ne nous a-t-on pas montés dans nos chambres, séparément ? Et sans personne pour nous servir ? Par le monde plat électrique, comme si...
Comme si ?
Ah, est-ce que je sais ? Comme si on avait peur les uns des autres ici. Comme si on était des prisonniers dangereux.
Toujours des craintes.
Dès le commencement, j'ai tremblé.
Eh oui, tu trembles toujours.
D'abord cette entrée.
Il y a bien quoi, cette entrée, quoi ?
Comme un château fort. Et cet homme, triste, le seul qui fut là pour nous recevoir. Pourquoi nous a-t-il fait signer sur le livre ?
Bien quoi, mais voyons, Hermann ne nous avait-il pas prévenus ?
Ne crois-tu pas que nous avons eu tort de signer sans lire ?
Pourquoi ? C'était bien inutile, une simple formalité.
Ah, tu crois ? Vois-tu, Enrique, je sens autour de nous quelque chose d'effrayant. Si Hermann nous avait fait tomber dans un piège, pour se venger.
Tais-toi ! C'est elle !
C'est elle ?
Oui, sûrement, regarde ! Au bout de la galerie, regarde son collier ! Viens, on va se cacher. Maintenant, il faut agir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Allez, va. Mais va !
Madame ? Pardon, madame. Voudriez-vous être assez aimable pour nous donner quelques renseignements ?
Des renseignements ?
Oui. Nous venons d'arriver, mon frère et moi.
Madame.
Et nous ne pouvons parvenir à voir un seul domestique.
Non, on les voit très peu. Quand on a besoin de quelque chose, on le demande, par téléphone.
Ah.
Vous ne le savez donc pas ? Il y a des téléphones partout, même aux fauteuils, à tous les fauteuils.
Je vous remercie, madame. Mais dites-moi, où sont donc les infirmiers ?
Au dehors. Dans le parc, près de l'enclos.
Ils ne sont pas ici ?
Quelques-uns demeurent dans la maison principale. On ne garde pour le service que les moins malades.
Malades ?
Oui.
Et le docteur ?
Le docteur ?
Où est-il, lui ?
Il habite une maison en dehors.
Mais il vient ici, voir les malades.
Ici ? Non. Dans un pavillon séparé, près de l'entrée.
Ah. Alors les malades vont le voir.
Ceux qui peuvent. On le voit dans le premier parloir.
Le premier parloir ? Ah oui.
Qu'est-ce que c'est ?
On sonne ainsi quand il est arrivé quelque chose.
Quelque chose ?
Oui, quelque chose de grave. Une mort. Ou un suicide. Ce pauvre Tristram. Pauvre Tristram.
Mais elle s'en va. Madame ? Pardon.
Pardon, madame. Dites-moi, quel est donc ce bâtiment? Le bâtiment, là.
Quel bâtiment?
Ah oui, cette chose en bois qu'on aperçoit là-bas, au-dessus du Val Noir. On ne distingue pas très bien. Une sorte de blocos avec des palissades.
Le fort.
Ah, c'est un fort.
Nous le voyons de nos chambres.
Ah.
C'est vrai, vous venez d'arriver, vous êtes au nord. Mais on vous changera bientôt.
Ah bon?
Pour les nouveaux, les chambres sont tournées vers l'entrée. Ensuite, c'est vers l'enclos.
L'enclos?
Moi, je suis du côté de l'enclos. J'ai l'appartement d'Élise. C'est le plus beau.
On nous avait bien dit qu'on soignait ici les gens les plus riches des États-Unis.
Ah oui, c'est vrai. Ainsi, votre collier...
Oh, superbe.
Ah oui, quelle richesse.
Ces diamants.
Et ces perles.
Je n'ai jamais rien vu de si beau.
Oui.
C'est magnifique, madame, magnifique.
Ce fermoir, quelle merveille. Oh, si vous vouliez bien me permettre de voir...
Comment?
Oui, rien qu'un instant. Si j'osais vous prier de le défaire. Oui, pour l'admirer de plus près.
Mon collier, le défaire? Mais comment? Le défaire, moi?
Mais pourquoi me parlez-vous de mon collier? Vous êtes folle?
Mon collier? Mon collier, moi?
Maud Hammersley sans mon collier?
Et jamais! Jamais! Jamais!
Le collier vaut des millions, tu entends, Lola? Des millions!
Des millions.
Tu as tout préparé?
Oui, dans ta malle, sous tes vêtements.
Bien. En pleine nuit, quand tout dormira dans la maison, nous travaillerons. Tu mettras ton maillot noir, c'est plus sûr.
Bien.
J'ai vu un endroit dans le parc, un mur. Facile, je crois, à escalader. Nous nous procurerons des chevaux. Une heure après, nous serons loin. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Lola, nous allons être riches. Fini la vie de misère, la vie d'aventure, la vie... de crime. Une fois riches, nous devenons honnêtes comme les autres. Hein?
Oh, si tu disais vrai.
Ah! Quoi?
Oh là! Regarde!
Mais où ça?
Cette chose noire! Derrière les carreaux!
Mais il n'y a rien!
Si! Là! Cette chose noire! On aurait dit un masque! Écoute, je t'en supplie! Partons!
Tu es folle!
Si, si! Je veux partir!
Partir? Tu as vu ça, toi? Partir sans risquer le coup? Alors bientôt, on crèverait de faim? Ou je serais perdu?
Oh, tais-toi.
Et toi, tu continuerais à vendre ton corps pour quelques misérables dollars?
Tais-toi.
C'est ça qui devrait te faire peur, oui, ça seulement. Le reste, c'est des bêtises. Allons, il n'y a plus à reculer. Obéis! Je le veux. Obéis.
Il n'y a pas de lumière dans sa chambre. Elle doit dormir.
Faut attendre encore un peu.
J'ai hâte que ce soit fini.
Ce sera pas long.
J'étouffe sous cette cagoule. Qu'est-ce que c'est?
Des portes qu'on ferme. Pour se préserver des voleurs.
Ne ris pas. C'est sur nous qu'on les ferme.
Ah, laisse-moi tranquille. Allez, éclaire-moi. Je coupe l'électricité. Plus rien à craindre de ce côté. Maintenant, à l'ouvrage. Son coffret à bijoux doit être dans sa chambre.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Et le collier dedans. À moins qu'elle ne couche avec.
Tu sais bien ce qu'elle disait quand je lui ai demandé de le défaire.
Éclaire-moi!
Tu crois qu'elle est endormie?
Si elle ne l'est pas, il y a le chloroforme. Sinon...
Ah non! Pas ça! Pas ça!
Tais-toi, ça suffit!
Qui est là? Qui est là? L'électricité ne marche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a... Ah
ah Henrique!
Tais-toi! Il faut aller vite! Éclaire-moi! Éclaire-moi, nom de Dieu!
Oui.
Aide-moi que je puisse retirer le collier.
Oui.
Éclaire-moi, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, c'est horrible! Ne la touche pas!
Quoi?
Oh, ce que j'ai vu là, sur son cou, sur sa poitrine, c'est horrible!
Idiote! Tu mériterais que... La lampe! La lampe, nom de Dieu, rallume la lampe! Il n'y a pas de temps à perdre. Écoute, écoute. On t'a entendu.
Nous sommes perdus.
On vient.
On vient.
C'est foutu.
Que faire?
Attends, nous défendre. On ne nous tient pas encore.
Nous avons peut-être le temps de fuir.
Attends.
Viens.
Attends.
Tu n'entends pas.
Mais tu ne voudrais pas que je lui laisse son collier. J'aimerais mieux crever.
Sauvons-nous, laisse-la. Comment peux-tu la toucher? Viens. Mais viens donc.
Oui, ça y est!
On est mains!
Ça va! Ça va, je suis fait!
Qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
Ah, vous le savez bien, puisque vous m'arrêtez.
Voyez si personne n'est caché. Mrs. Summersley. Elle est morte.
Hein? Vous entendez?
Oui.
Vous l'avez tué pour la voler.
Qui, moi? Non, mais vous n'y
fouillez le. Le collier. Mais ça devait arriver. Portez-le au bureau dans le coffre-fort.
Bien, monsieur le directeur. Lola!
Voilà, c'est fait. On ne l'a pas manqué.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites?
Oui, cette femme, votre complice, elle vient d'être abattue à coups de fusil par les soldats du fort comme elle tentait de s'échapper. Ils font bonne garde. On ne sort pas d'ici.
Lola, Lola, vous avez... Assassin!
Assassin? Et vous?
Vous l'avez tuée? Elle? Ma petite Lola? Mais elle n'était pas coupable. Moi? Moi seul? Oui, moi seul, je suis coupable. J'ai tout combiné. Tout fait. Et coupable de quoi? D'avoir pris ce collier, d'avoir... même d'avoir supprimé cette folle. À quoi était-elle utile en ce monde? Nous, les misérables, on bataille contre la vie et on crève de faim sur les routes. Quand vous, les riches, les milliardaires, vous jouez des fortunes, vous portez des gants en or, des colliers qui valent des millions de dollars. Hein? Allez, conduisez-moi au shérif. Qu'on me mette en prison et qu'on en finisse.
En prison? Vous y êtes. Vous y êtes, depuis le moment où la porte de cette maison s'est refermée sur vous.
Quoi?
Et savez-vous où vous êtes entré?
Au château du Val-Noir.
Au château du Val-Noir, dans ce lieu de ténèbres où finissent de mourir les riches, atteints de cette inguérissable maladie.
Quelle maladie?
La lèpre.
La lèpre?
Oui, la lèpre. Regardez son cou. Et regardez mes mains. Vous comprenez pourquoi le fort fait bonne garde. Et celui-là, regardez son visage.
Oh, c'est horrible! C'est horrible!
Tous ici, nous sommes lépreux. Maîtres et serviteurs. À l'isolement obligatoire, nous avons préféré... la vie en commun. Et ainsi nous attendons lentement la mort. La mort libératrice. Et lorsque nos membres s'en vont, un à un, rongés, pourris par la lèpre, alors on nous enferme à jamais dans l'enclos. L'enclos des roses.
L'enclos des roses.
L'homme est mort, justement, qui s'occupait là-bas d'ensevelir les cadavres. Vous le remplacerez.
Ah non ! Non ! Pas ça ! Pas ça, vous n'avez pas le droit ! J'aime mieux mourir tout de suite ! Tuez-moi ! Tuez-moi, je vous en supplie !
Vous mourrez en compagnie des lépreux, petit à petit, lentement, quand votre heure sera venue. D'ailleurs, c'est le règlement. En entrant ici, vous l'avez signé, et c'est la loi. La loi de ce pays. La loi.
Je vous supplie, ayez pitié. Je ne savais pas. On m'a entraîné ici. C'est une vengeance, je ne savais pas. Je n'ai pas peur de la mort. Mais ça, non, 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 pas ça. Pardon, pitié, ayez pitié, monsieur. Laissez-moi m'en aller. Je suis jeune, je n'ai pas votre maladie. Je ne suis pas lépreux, moi.
Qu'en savez-vous? La contagion est si étrange. Mais, bien que vous ne soyez qu'un bandit, je veux vous épargner cette angoisse de vous demander chaque jour, chaque heure, si le mal est entré en vous.
Qu'est-ce que vous voulez faire de moi ?
Vous entendez ces chants ? C'est pour vous qu'on chante cette fois. C'est pour vous. Allez. Donnez-lui le baiser de la mort.
Non ! Non ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Ne me touchez pas ! Je ne veux pas ! Je vous en supplie ! Non !
La mort lente continue de ramper avec la mascarade interrompue. Simplement, elle change de couleur et de tonalité.
Comme dans un chromo de Gustave Moreau, dont l'atelier est situé à quelques pas de la rue Chaptal.
Il faut dire que les effets spéciaux du Grand Guignol pour cette pièce, ce sont des effets d'éclairage, les carreaux sanglants et les vitraux écarlates.
Donc, du Gustave Moreau. Gustave Moreau, dont l'atelier est donc situé au cœur de la Nouvelle Athènes, ce quartier d'artistes où la liberté d'expression se doublait à l'époque d'une liberté de mœurs, et ceci depuis l'époque romantique. Ainsi, Square d'Orléans vécurent Chopin et George Sand, Custine et son ami, Chassé du faubourg Saint-Germain, comme plus tard le fut Oscar Wilde de Londres et de l'Angleterre.
Il faut dire que le théâtre de la rue Chaptal était à l'origine aussi un atelier de peintre.
Oui, c'était l'atelier de Rochegrosse, vous savez, le peintre du chevalier aux fleurs, dont la reproduction traîne dans tous les manuels sur Richard Wagner.
Un atelier qui sort d'ailleurs d'une chapelle.
Oui, où Perrorel, le père Didon, un orateur enflammé et quelque peu hystérique. Mais revenons à la mascarade interrompue, notre seconde pièce. La maladie évoquée dans ce décor de luxe peut faire penser, bien sûr, à certaines descriptions du théâtre et son double d'Antonin Artaud. Mais aujourd'hui, naturellement, nous pensons au sida et au terrible spectre qui s'ensuit.
Il faut dire aussi que l'épidémie de choléra est encore dans toutes les mémoires au tournant du siècle.
C'est vrai, mais on pense également à l'anarchie. Et vous savez, je crois que la baronne de Zuilen voyait dans l'anarchie une manière de miner une société bien pensante.
Au fond, ce sont les stigmates du destin liés à l'esprit fin de siècle sur fond de pourriture et de vomissement.
Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir au sida, le sida, certes, c'est une maladie, mais c'est également le symbole de la marge qui, au fond, mine toutes les familles, une fois de plus, bien pensantes.
Absolument. Alors, la pièce, elle, était longtemps attribuée à René Vivien. En fait, l'auteur, c'est bien Hélène de Zuylen de Nivelt, qui est née Hélène de Rothschild. Et je voudrais simplement dire que Jean-Paul Goujon a tracé de ce personnage un portrait dans son ouvrage « Tes blessures sont plus douces que leurs caresses ».
Cette mascarade est magnifique.
Oui, d'une magnificence un peu excessive. Oh. Un peu barbare, peut-être. Mais on ne saurait refuser au prince Prospero une originalité et une hardiesse de conception très rare chez un prince.
Il aime le faste. Nul à la cour ne peut ignorer son goût pour le bizarre et l'outré.
C'est pourquoi nous avons cherché nous-mêmes, dans le choix de nos costumes, le curieux et l'étrange, plutôt que l'élégant et le gracieux.
Je ne vous en blâme qu'à moitié.
Ah, moi, je ne reproche jamais rien aux femmes, par principe.
Oh, c'est le seul principe que je vous connaisse. Soit dit, sans vous offenser le moins du monde.
Pourquoi les musiciens se sont-ils interrompus ?
Je ne sais.
C'est à cause de cette horloge.
Oui. Elle teinte plus lugubrement qu'un glas.
Un glas ? Ne prononcez pas ce mot ici.
C'est un fait inexplicable que, si tumultueuse que soit la danse, le premier coup de l'heure domine tous les bruits.
Les musiciens paraissent stupéfaits.
Oui. Stupéfaits d'avoir cédé à cette peur absurde.
Et malgré eux, ils s'arrêteront encore lorsque leur nouvelle sonnera.
Mais quelle étrange chose. Nous tous, nous avons pâli.
Bah, ne pensons plus à cela.
Ce soir, les dames de la cour sont assurés de plaire au prince Prospero. Jamais je n'ai vu de créature humaine aussi voisine du démon, de la fée, de la bête, de l'ange, de tout, sauf de la simple humanité.
Le prince Prospero doit être satisfait.
Il est vrai. J'ai entendu dire, plutôt chuchoter, que le prince Prospero n'a point d'intelligence façonnée comme celle de simples mortels.
Non. Vous laissez entendre qu'il est un peu... Osons le mot, un peu fou.
Peut-être.
Quant à moi, je le croirais volontiers.
Mais seigneur, vous vous abusez. Je puis vous certifier pour ma part que le prince est en possession de tout son bon sens.
Il a des idées si extraordinaires.
Il a le culte du bizarre.
C'est lui-même, n'est-ce pas, qui a minutieusement réglé l'ordonnance de cette fête.
Il en a déterminé jusqu'au plus insignifiant détail.
On dirait... une assemblée de rêves. Il y a les rêves suaves, les rêves grotesques, les rêves terribles. Ils passent, ils repassent, comme les visions nocturnes en un cerveau désordonné.
Ils flottent. Ils s'arrêtent. En vérité, c'est bien une assemblée de rêves.
Oh, voyez donc comme la duchesse Fortunata est belle.
On dit que le prince doit l'épouser prochainement.
On dit tant de choses.
La duchesse Fortunata est le fruit superbe d'une lignée glorieuse. Elle dément de façon éclatante, ma foi, la légende qui veut que toutes les héritières soient laides.
Oh. Il n'est pas encore aperçu dans la salle où on danse. Il y a une si nombreuse assemblée.
Ha ha!
je crains d'avoir pris mon rôle de Bacchus trop au sérieux.
Ah, cela est apparent pour tous, mon ami.
Le prince Prospero s'y connaît en vain, le gaillard. Et magnanime, il ne les garde point pour son seul plaisir. Ses gobelets débordent. En ce qui me concerne, j'ai usé largement, très largement, de sa générosité.
Inutile d'insister, très cher.
Et maintenant, je ne suis pas ivre. Croyez-moi, je ne suis point ivre. Mais j'ai l'âme plus joyeuse qu'à l'ordinaire.
Bonne chance!
Voici la marquise Violante.
Comme elle a l'air sombre.
Un amour contrarié, sans doute.
Peut-être.
Taisez-vous, pour l'amour de Dieu. Taisez-vous. Point de peut-être ici.
Est-elle vraiment toujours aussi sombre que ce soir? C'est donc qu'elle doit être éprise de quelque part.
Et amoureuse, aimée surtout, elle aurait l'air moins triste.
Qui sait, Luki, le poète favori du prince Prospero, ne prétend-il point que l'amour, même partagé, n'est qu'un tissu de douleur?
Moi, je vois l'amour sous des couleurs moins tristes.
Votre opinion est la mienne. Je n'ouvre ma porte à l'amour que s'il frappe en riant.
Oh, la marquise. Oh, Madonna, vous paraissez bien soucieuse. Le bal n'aurait-il pas l'heure infinie de vous plaire? Je songe à ce qui se passe au dehors.
Oh, par pitié, Madonna, ne songez point à ce qui se passe au dehors.
Mais on ne peut point ne pas y songer.
Ne nous en parlez point.
Depuis que je suis venue ici, dans cette abbaye dont le prince Prospero a fait tout ensemble sa cour et sa forteresse, je ne pense qu'aux choses atroces qui se passent là-bas.
À quoi bon? Nous n'y pouvons rien.
Les rues sont des charniers pestilentiels. On n'enterre plus les morts. Ils sont trop nombreux. On les laisse pourrir à l'endroit où ils sont tombés, la face contre terre, frappés en quelques instants par la peste rouge. La peste rouge. Un passant qui reconnaissait un ami s'arrêtait pour lui parler. À peine avait-il échangé quelques mots que l'ami joyeux chancelait. Et sur toute sa face se répandait une sueur de sang.
Une sueur de sang?
Oui, dès le début de cette étrange et terrible maladie, une sueur de sang se répand sur tout le corps et sur le visage.
Mais ici, nous ne craignons rien. Ici, le péril ne saurait nous atteindre.
Qu'en savez-vous?
Le prince Prospero a sagement pris ses précautions. Il a choisi, pour la salubrité de l'air et la verte campagne, cette abbaye, où tous, nous nous sommes réfugiés avec lui.
Et puisque nous nous trouvons à l'abri de tout danger, réjouissons-nous. Cette mascarade est superbe. Les masques sont bizarres, grotesques, beaux ou terribles.
Et nous sommes jeunes et gais et pleins de vie.
La nuit est brève, trop brève à mon gré. Prolongeons-la jusqu'à la Monsa de Rome.
La nuit est toujours trop brève lorsqu'on parle d'amour.
Les femmes gémissent en bas. Il faut leur porter secours. Il le faut, entendez-vous? Vous savez bien que le prince Prospero a donné l'ordre de sceller les fenêtres pour que nous n'ayons plus sous les yeux les spectacles affligeants du dehors. Alors je vais descendre et moi-même j'ouvrirai la porte.
Le prince Prospero a fait forger de vastes portes d'airain afin que nul ne puisse sortir de l'abbaye sans avoir obtenu son auguste assentiment.
Mais c'est horrible! Le prince, en sa grande sagesse, avait réfléchi que par une compassion inconsidérée, nous pourrions peut-être ouvrir les portes à quelqu'un du dehors. Au nom de la pitié humaine, laissez-moi secourir ces femmes.
C'est de la folie, Madonna. Songez qu'elles apportent peut-être la peste rouge dans les plis de leurs robes, dans leurs mains, dans leurs cheveux.
Elles viennent de la ville funèbre.
Elles vont mourir de faim, de froid et de peur.
Est-ce notre faute, à nous?
Le premier des devoirs est celui que l'on a envers soi-même.
Il importe avant tout d'éviter la contagion.
Oh, tenez, vous me faites horreur. Vous êtes aussi féroce, aussi lâche que votre maître, le prince Prospero.
Madonna, ces paroles sont graves.
Nous n'avons point mérité ces insultes.
Oh, je vous l'ai dit, vous me faites horreur. Mais surtout, vous me faites pitié. Écoutez-moi. Vous avez beau verrouiller les portes, sceller les fenêtres, vous enfermer derrière les clôtures, vous n'empêcherez point la peste rouge d'entrer au milieu de vous lorsque l'heure fatale tintera à cette horloge d'ébène.
La marquise de Violante doit être un peu folle.
Toutes les femmes ne le sont-elles pas plus ou moins ?
Dieu soit avec vous, mes amis.
Et avec vous, duchesse.
La chaleur est pesante. Ne trouvez-vous point ? J'étais sur le point de défaillir dans la salle où l'on danse. Il y avait trop de bruit, trop de lumière, et je suis venue ici chercher un peu de fraîcheur. Je suis très lasse.
Me permettez-vous de vous éventer, duchesse ?
Volontiers, Seigneur. La chaleur m'a épuisée.
Voyez, le visage de la duchesse Fortunata est couvert de sang.
Elle tombe en défaillance. Elle. Mais c'est la sueur de sang. Ah, mais si...
Vous perdez l'esprit. C'est le reflet écarlate du vitrail qui ensanglante ainsi le visage de la duchesse.
Laissons-les seuls.
Et tandis que la peste continue à sévir à l'extérieur, les amoureux s'en donnent à cœur joie. Mais voici que surgit le prince Prospero.
Ils disent tous qu'il est question de mariage entre nous.
Ah !
Que dites-vous de ces propos, ma cousine ?
Ils me surprennent quelque peu, je l'avoue.
Et qu'ont-ils de surprenant, ces propos ? Votre naissance est aussi glorieuse que la mienne. Les états de votre père sont voisins de ma principauté. Et plus tard, lorsque vous hériterez ce duché illustre, nos deux couronnes unies resplendiront d'un lustre égal.
Ce que vous dites là est fort possible.
Bon, cela est certain. Cela est indiscutable, ma cousine.
Mais ne pensez-vous point que toute alliance, si auguste qu'elle soit, doit être fondée sur l'amour?
Certes, ma cousine. L'amour est la base de toute union princière. Bon, je parle bien entendu de l'amour inspiré par la raison, le devoir, la parité du rang.
On m'a dit autrefois que trop de raison nuisait à l'amour.
Je crois reconnaître là le ton frivole du comte Leonardo. Le mariage, ma cousine, est chose sérieuse. Vous le savez aussi bien que moi.
Oui, mon cousin.
Tout à l'heure, lorsque les réjouissances seront à leur comble, je ferai annoncer solennellement notre union prochaine.
Tout à l'heure ? N'est-ce point singulièrement hâté, les événements ? Je vous en prie, mon cousin, retardez de quelques jours la proclamation de nos fiançailles.
Et pourquoi cela, ma cousine ?
Convient-il de précipiter de la sorte un acte d'une si haute importance ? Et puis, songez au mal terrible qui ravage la principauté. Ce serait trop de douleur, trop d'angoisse autour de notre union.
Encore et toujours cet important rappel. Tout le monde autour de moi semble n'avoir que ces mots sur les lèvres. La peste rouge ! La peste rouge ! On dirait que tous ont donné le mot pour m'excéder avec cette peste rouge. Eh bien, oui, il y a eu quelques morts. A-t-on point toujours vu autour de soi des malades et des morts ?
Excusez-moi, mon cousin. Mais je vous en supplie. Attendez que le fléau se soit calmé avant d'annoncer devant la cour notre prochain mariage.
Soit, ma cousine. Il en sera suivant votre désir.
La marquise Violante, elle vient de quitter la salle des danses. Elle vient par ici.
Je la trouve moins belle depuis que je la vois si pâle. La pâleur ne sied guère aux femmes.
La voici.
Marquise, je vous trouve mélancolique ce soir. Vous m'envoyez affligée.
Votre Altesse me fait trop d'honneur en remarquant ma sotte mélancolie.
Le prince n'aime point que l'on soit triste autour de lui.
Mais lui-même, n'est-il jamais triste?
Jamais.
Avec quelle heureuse audace vous avez su juxtaposer ces émeraudes et ces saphirs. C'est absurde! Allez dire à ces gratteurs de cordes que s'ils m'infligent de nouveau cette farce saugrenue, mais laquelle alors paieront d'une bastonnade bien appliquée. Ah, nous ne voulons que des rires et des chants, cette abbaye. Tout ce qui n'est point la gaieté doit être banni d'une telle assemblée.
Oh, mais comment n'être point joyeux parmi toute cette joie? Et ici, il y a des bouffons.
Il y a des improvisatori, des danseurs de ballet.
Il y a la beauté. Il y a du vin.
Oh. Certes. Et avant tout, il y a la sécurité.
Et au dehors, il y a la peste rouge.
Oh. Marquise, vous avez encouru notre auguste défaveur. Nous vous permettons de vous retirer de la fête et de vous enfermer dans vos appartements.
Altesse, je vous ai dit que la peste rouge est au dehors. Peut-être est-elle entrée parmi nous, au moment où je parle.
C'est la disgrâce.
Mais aussi, quelle impertinence dans les propos de la marquise.
Le prince ne pardonnera pas. C'est un quartat de la blesser au vif.
Je n'aime point que l'on soit agité.
C'est un masque qui vient d'entrer dans la salle.
Les portes des reins sont closes. Comment aurait-il pu entrer?
Nous ne savons point, mais il est entré néanmoins.
La face est si de mauvais goût, de fort mauvais goût.
Il est effrayant à voir. Il est revêtu d'un linceul.
Il a l'air de sortir du tombeau.
C'est un comédien qui nous surpasse tous.
Un très remarquable comédien.
Il marche comme doivent marcher les morts lorsqu'ils quittent leur sépulcre.
Regardez-le se mouvoir dans la salle du festin.
Les femmes se sont évanouies sur son passage.
Et les hommes, eux-mêmes, s'écartent de lui.
Oh, les hommes, ils ont encore plus peur que les femmes.
La plaisanterie est grossière et stupide.
Mais ce n'est pas une plaisanterie. Il approche. Non.
Oh. Ah, assez! Assez! Qu'on saisisse cet homme et qu'on l'emmène!
Ah non!
Lâche! Lâche! Dis-nous ton nom, afin que nous sachions qui nous devons pendre demain au créneau de l'abbaye. Ôte ton masque. Dévoile-nous ton visage!
La peste rouge est parmi nous.
Cette mascarade interrompue, vous l'avez reconnue, est l'adaptation du masque de la mort rouge d'Edgar Poe. En musique, André Caplet nous en avait donné une version pour harpe et piano. Il est d'ailleurs à noter que les coups à la porte sont assénés par le pianiste sur le palissandre de l'instrument. Donc, Edgar Poe est la grande référence esthétique de ce 19e siècle symboliste, de Baudelaire à Mallarmé, mais également la référence première du Grand Guignol, avec notamment le cœur révélateur de Georges Morvert, déjà joué au Théâtre Libre, et le fameux système du docteur Goudron et du professeur Plume de 1903 dans une adaptation d'André Delorde.
Et qui est le premier grand succès, au fond, du théâtre du Grand Guignol.
Avec sa célèbre affiche, justement.
Voilà, justement. Alors, après le réalisme macabre et littéraire repris à Pau, après les châteaux et les tours, le phare, que je placerai, moi, du côté de Zola. Un fil conducteur, au-delà des torsions que nous faisons subir à la chronologie, gardien de phare en effet date de 1905, c'est l'épidémie, l'horreur qui surgit quand la médecine est débordée et impuissante. On retrouve le naturalisme pathétique du Grand Guignol, la tranche de vie et une étrange théâtralisation des rapports père-fils dans Gardien de phare de Paul Autier et Paul Cloquemin.
Cœur. Dans un moment, on y verra goutte. Heureusement, j'ai bientôt fini, le mécanisme est en bon état. Ah, commode tout de même, ces allumeurs électriques autrefois ont passé un temps. Maintenant, un tour de roue. Crac ! Toutes les mèches brûlent. Nous sommes parés pour l'allumage. T'as fini en bas?
Oui. J'ai rempli le réservoir et je suis remonté. 200 marches dans les jambes. Oh, j'en peux plus, hein.
Heureusement qu'on l'a pas fait plus haut, notre phare.
Être perché 50 mètres en l'air, c'est suffisant.
Ah, quel temps. En v'là un vent.
Pour sûr. La nuit sera longue.
À 7 heures que nous avons embarqué pour prendre notre car. Un mois, c'est vite passé. Un petit. Ah, la vie n'est pas si agréable qu'au pays, tu regrettes. L'éveillé chez le cousin Santec, pas vrai? Ah, il y venait tant de monde. Dame, maintenant, nous sommes seuls.
Tous deux seuls, séparés des chrétiens par plus de 2 lieues de mer.
Tiens, écoute ça. Ah, oh, quelle tempête. Entends la musique.
Oui. J'ai jamais senti notre solitude comme aujourd'hui.
Le fait est qu'il n'y a pas de voisin. Le phare du maudit, le plus sauvage de la Bretagne, comme m'a dit l'inspecteur de la 20 ans quand on m'a nommé. Sauvage, ah c'est certain. Ces messieurs de l'administration n'y abordent que dans une corbeille au bout d'une corde qui vient les pêcher dans la barque. Ah, ils font une drôle de tête là-dedans. Secoué sur le dos des lames comme un plat de faillot dans les pattes du maître coq. Allons bon, le tonnerre maintenant. La grosse caisse qui entre en ligne.
père. Si l'un de nous allait mourir, que deviendrait l'autre?
Tu vas à la campagne? Mourir sans sacrement? Bon Dieu peut pas permettre ça. Mourir sans voir la vieille qui nous attend sur la côte en face, sans embrasser. Et qu'est-ce que t'as? Depuis 3 ans que tu remplaces ici Pierre, mon aîné. La bonne Vierge et son âme. Je t'ai jamais vu comme ça. T'as pas envie de mourir? Ni moi non plus. Ah.
Brave Pierre. S'il était resté.
Ouais. S'il était resté, il n'aurait pas servi de pâture aux requins. Pauvre gars.
La mère peut pas s'en consoler. La veille de notre embarquement, je l'ai encore surprise relisant la lettre du commandant du voilier sur lequel Pierre naviguait dans les mers du Sud.
Ouais. Cette lettre, je la sais par cœur. Pendant une tempête du sud-sud-est, je commandais un changement d'amure. Votre fils s'élança le premier dans les enfléchures de la misaine. À mi-hauteur, le pied lui manqua et il disparut dans les vagues. Dieu l'avait pris.
Mon sort aurait été le même, peut-être. Mais aussi, c'était la vie libre, l'horizon sans limite, le danger. Au lieu d'être prisonnier comme un rat dans une ratière.
Oh, le danger, c'est beau, possible, mais le devoir ici est 100 fois plus beau.
C'est dur tout de même d'être enfermé.
Bon, tous les 30 jours, quand nous retournons passer un mois à terre, nous pouvons être fiers de nous. Grâce à notre phare, plus d'un est revenu au port. Et sans lui.
Cette fierté-là, je l'ai eue, père. Tu te rappelles ma joie à mon premier tour de garde, quand j'ai été nommé avec toi en quittant l'escadre? Eh bien, depuis notre tour, je suis plus le même. Je sais pas.
Ah, ça n'est rien, ça va passer.
Ouais. Oui, ça passera. Demain.
Le vent est norrois. Vilaine nuit qui se prépare.
Entends-tu les goélands autour de la lanterne? Quel sabbat! Ils sentent le mauvais temps. Reste donc tranquille, Yvon. T'as pas fini de rôder comme tu le fais?
Non, c'est plus fort que moi. Il faut que je marche.
C'est à terre que tu as attrapé la maladie des moutons qui tournent et qui tournent jusqu'à ce qu'ils tombent? En voilà une maladie pour un matelot.
Oh, je suis ennuyé. Agacé.
Oh, moi je crois bien que cette fois t'as une autre maladie. Et qu'avant longtemps, le père Bréant ira à la noce.
T'as deviné, père. Marie sera ma femme. Nous nous sommes promis l'autre jour.
Ouais, pardi, le v'là tant mal. Ah ben, n'y pense plus. Voyez-vous cette matine de Marie? Quelle cachotière! Avec ça que c'était bien difficile à deviner, hein? Elle a du goût, la petite. Notre Yvon. Et puis un gardien de phare. Comme ça, elle sera pas jalouse.
Oh, plaisante pas, père. Mais nous aimons bien tous les deux.
Ouais, je ne plaisante pas, et puis je veux que vous me fabriquiez un petit bréant. Hein, solidement charpenté, qui gardera à son tour le phare du maudit quand ma vieille carcasse reposera dans le cimetière, là-bas au village avec les anciens.
Nous ne le sommes pas encore.
Ouais, le plus tard, s'entend. Je ne suis pas pressé de demander mon passeport au bon Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les oiseaux, là-haut, avec leur sacré coup de bec? Mais ils finiront par casser les verres. Bon, ça serait pas la première fois. Mais avec ce temps-là, faudrait voir à ne pas les laisser faire. Heureusement qu'ils sont sauvages au possible. Rien que d'ouvrir la porte, chouf, ils sont déjà filés.
J'ai donc. J'ai froid. J'ai froid. Et pourtant, ici. Ça me brûle. Ça me brûle. Jamais je n'ai rien senti de pareil. Le vieux va s'inquiéter. Je peux pas tenir en place. Hein?
Oh, bon. Quel temps je glissais. Depuis la grande tempête d'il y a 4 ans, il n'y en avait pas eu d'aussi rude. Notre phare a beau être en belle pierre solide, n'empêche qu'il penche, c'est certain. Ah. Ouvre un bateau. Allez donc lutter contre un vent semblable. Hé, hey. Le feu du maudit sera là, et ils y verront clair cette nuit, pas vrai, Yvon?
Oui. Père, qu'est-ce que tu fais?
Là, tu vois, j'astique. Un fin matelot doit toujours fourbir.
Veux-tu laisser ça? Et veux-tu laisser la lanterne?
Pourquoi donc?
Et veux-tu laisser ça à la fin?
Et quoi que t'as?
Ce cuivre qui brille, qui me blesse. Ce sont des pointes de feu qui m'entrent dans le crâne.
C'est idiot possible, est-ce que tu deviens fou?
Je sais pas. J'ai plus. J'ai peur.
Peur?
Oui, peur. Cette existence me pèse. Être seul pendant des mois, des années. Oh, j'envie maintenant les marins sur les vaisseaux qui passent. Le navire les entraîne vers un port, vers un but. Tandis que nous...
Mais t'agites donc pas comme ça, tu te fatigues. Et cette nuit, le sommeil t'empoignera pendant ton quart.
Ah, tant mieux. Ah, dormir. Si je pouvais dormir...
Ah, tais-toi, Yvon. Parle pas ainsi. Endormir pendant ton quart, c'est le salut de ton âme que tu compromettrais. Si par notre négligence un navire se perdait sur les rochers qui nous entourent, nous serions responsables de la mort de chaque homme. Aussi ouvrons l'œil.
Allons.
Je vais prendre l'air, ça me fera du bien.
Attention, hein. Tiens-toi bien, ils vendent dur. Pauvre gars. Pourvu que ça n'augmente pas, nous serions propres ici. Par un temps comme ça, aucun bateau ne peut aborder le phare et c'est pas encore avec son tape-cul et sa vieille jument grise que le docteur de chez nous pourrait accoster cette nuit au maudit. Dire que si on était malade, on pourrait mourir ici faute de soins. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble qu'on a crié. Non, je n'entends plus rien. Plus rien. Décidément, mon vieux Bréant, tu commences à baisser. Non? Non, je ne me suis pas trompé. Mais alors, il y a Kivan et moi ici. Mon Dieu, est-ce que j'aurais peur à mon tour? Kivan, pourquoi t'as crié?
Ah? J'ai crié? Oui, peut-être. Je fais des choses malgré moi aujourd'hui.
Alors, viens là, t'es tout trempé.
C'est pas naturel, dis.
Ce sale vent t'a fait mal.
Ah oui. J'ai du feu dans la poitrine. Ici, tiens. J'ai soif.
Non.
J'ai soif.
Non, ne bois pas, ta fièvre deviendra méchante.
Ah, si, donne-moi de l'eau. Un peu d'eau.
Non.
Et donne-moi de l'eau, j'en veux.
Ah, te fâche pas.
Je te demande pardon. Mais tu sais pas, toi. Tu peux pas savoir. Je suis plus moi. Il se passe des choses dont je me rends pas compte. Une force qui me pousse malgré moi. Ah, oh, je veux boire.
Tiens, bois. Allez, pas trop vite.
Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai à présent? La autre chose, j'ai soif. Je veux boire. Je peux pas.
Tu vois, c'est la fièvre.
Mais je boirai. Je boirai, j'ai soif. Je boirai quand je devrai en claquer, nom de...
Non. Laisse ça. Tu boiras tout à l'heure.
Oui. Oui, tout à l'heure. Mais ça loin de moi. Loin de moi.
Ça va mieux?
Je t'en prie, ne t'occupe pas de moi. Cette pluie...
Ah, ils ont oublié de fermer les robinets là-haut.
Tu plaisantes toujours. Et puis laisse ça tranquille. Ces étincelles me crèvent les yeux.
Enfin, qu'est-ce que t'as? Tiens. T'es content?
Oui. Ça va mieux. Oh, quelle journée. Elle finira donc jamais?
Elle ne dure pas plus que les autres.
Ah, j'ai chaud. J'ai trop chaud, j'étouffe.
Voyons. Tu trembles. Ouvre-toi.
Ah non, j'ai trop chaud.
Allons, couvre-toi, je te dis.
Le vieux est encore vigoureux, tu vas lui obéir. Ah. Qu'est-ce que t'as donc? Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux mauvais? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Sûrement. Sûrement t'as quelque chose, mon petit.
Écoute, père. Je vais te dire. C'est que...
C'est que quoi?
Je suis inquiet.
Inquiet? Pourquoi?
L'autre jour, chez le cousin Santec, j'ai été mordu.
Mordu?
Par le chien.
Quel chien?
Ah, Toby!
Celui qu'on a abattu?
On l'a abattu?
Oui. Tu ne savais donc pas?
Mais alors, il était donc enragé. Voilà donc ce que je chantais depuis 2 jours. L'atroce mal couvait, et puis voilà. Il éclate, il me pénètre partout, il m'envahit.
Mais non, tu te trompes.
Allons donc. Quand le boucher Guirec est mort de la rage, c'est ça qu'il éprouvait. La fièvre, les yeux malades, et puis la soif. Et il pouvait pas boire. Mais alors, tout est fini. Je suis enragé, dis père, je vais mourir enragé.
Non, non.
Moi, enragé comme une bête, jamais.
Yvon.
Père, sauve-moi. Tu veux pas me laisser mourir?
Non, je te sauverai.
C'est que tu vois, je veux pas mourir. Je veux vivre.
Oui, tu vivras, mon gars, tu vivras. Là, tiens. Là. Ouais, tiens-toi.
Dis donc, le père. Il y en a eu des gardiens de phare qui sont morts tout seuls? Sans secours sur le rocher?
Ouais.
Et l'autre? Leur compagnon, que faisait-il à côté? À côté du cadavre pendant des jours, des nuits, jusqu'à ce qu'on vienne le relever? Oh, c'est horrible! Je veux pas!
Mais chasse toutes ces idées-là, Yvon!
Alors tu resteras comme ça, auprès de moi? Non. Non, ça sera affreux pour toi. Je vais en finir tout de suite!
Non! Passe-la! Passe-la, je t'en prie! Épargne le vieux!
Laisse-moi!
Aie pitié!
Mais c'est toi qui n'as pas pitié! Me laisseras-tu à la fin?
Malheur! Yvon! Oh,
de l'eau! Encore! Partout de l'eau! J'ai peur!
Yvon, mon petit! Là! Viens là! Là! Aide-moi. Je te soignerai. Je te guérirai.
Tu ne peux plus rien. Ni toi, ni personne.
Si. Je gagnerai la côte à la nage. Je ramènerai du monde. Un médecin.
Ah, tu es fou.
Si.
De lieu à la nage par ce temps-là?
Oui, j'irai.
Non. Non, me quitte pas. Je veux pas que tu me quittes.
Tu as raison.
Presque un mois encore à attendre qu'on vienne.
Je ferai des signaux, mon petit. On viendra.
En hiver, les tempêtes sont longues. Et celle-ci redouble. Personne pourrait venir jusqu'au phare.
Dieu. Dieu fera un miracle.
Dieu.
Oh, ne blasphème pas, Yvon. Dieu est juste. Il se souviendra. Pendant 10 ans, sur le bateau de sauvetage, j'ai risqué ma peau assez souvent pour mes semblables. Il me doit bien ta vie en échange.
Oui. Peut-être.
Ah, que je souffre!
Ah oui. Rien. Rien à lui donner. Mon petit. Mon enfant. Ah, tu as raison, ce phare. C'est lui qui est cause de tout. Sans lui, on viendrait. On te soignerait.
Oh, j'ai mal.
Oui.
J'ai mal.
Oui, mon vieux, oui. Oui, tu souffres. Ah, si la vieille était là, elle te dirait des mots, de ces mots que les mères seules savent, qu'elles disent à leurs petits quand ils ont mal. Je ne sais pas, moi, tu comprends.
Maman.
Mon Dieu, il n'a rien de pouvoir.
Maman, maman.
Mon enfant, mon pauvre enfant.
Je veux pas mourir enragé. Cette mort épouvantable. Non. Non.
Yvon.
Et puisque je peux pas. Puisque je suis trop faible pour...
Achève. Achève.
C'est toi qui vas m'abattre. M'abattre comme un chien. Je suis un chien.
Quoi? Quoi, mon petit, tu voudrais...
Oui. Tu m'as donné la vie. Reprends-la maintenant. Puisque tu peux plus rien pour moi.
Te frapper, toi, mon gars. Te frapper.
Père, il le faut. Je t'en prie. Je t'en supplie. Tu n'as donc pas pitié de moi?
Tu guériras.
Je peux pas guérir. Tout à l'heure, c'est une bête fauve qui se jettera sur toi. Tu seras obligé de te défendre. Tu dois vivre pour garder le phare.
Tais-toi. Tais-toi. Ne parle pas ainsi.
Je souffre. Je souffre.
Mon Dieu. Mon Dieu.
Père. Père. Au secours. Le mal grandit. Je peux plus. J'en peux plus.
Yvon. Yvon.
Va-t'en. Va-t'en. Éloigne-toi vite. Je sens que je vais mordre. Prends garde, je vais mordre.
Oh, c'est horrible. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Oh, lâche-moi, lâche-moi. C'est bon. Mon Dieu, mon Dieu, il le faut. Yvon. Mon gars, mon petit. Je l'ai tué. J'ai tué mon fils. Oui, mère maudite. hurle à la mort. Salope! Tu es contente. Tu les as eus, mes deux gars. Avec le phare, depuis 20 ans, je t'en ai arraché des victimes. Aujourd'hui, tu te venges. Qu'est-ce? Oh, je te hais. Mon Yvon. Mon pauvre Yvon. Quoi? Une sirène? Un bateau? Le phare? J'ai oublié d'allumer le phare. Alors, le bateau va s'amorcer. Il est perdu. Qui crève tous? Je n'allumerai pas. On n'est pas venu nous secourir, nous. Je veux rester près du petit. De mon petit.
Jean-Marie Montaron, vous avez lu cette pièce de Grand Guignol, Gardien de phare, une pièce du début du siècle. Est-ce que cette situation de phobie par rapport à la rage, est-ce que ça vous paraît plausible?
Oui, parfaitement, puisque à l'époque, on sait que la rage canine a disparu en France simplement entre les deux guerres. Donc il était parfaitement plausible que des chiens ou des chats enragés mordent des gens de temps en temps dans n'importe quel endroit du pays. Il faut signaler cependant que c'était une espèce de phobie inscrite dans l'inconscient collectif depuis l'Antiquité, puisqu'il s'agissait d'une maladie mortelle, redoutable, relativement répandue et bien sûr incurable. Alors, à l'époque de la pièce, les traitements de Pasteur existaient déjà, puisque le premier enfant vacciné par Pasteur, c'était en 1885. Mais j'imagine que les traitements n'étaient pas aussi répandus, les centres de traitement n'étaient pas aussi répandus qu'ils le sont aujourd'hui. Et donc, des gens qui étaient mordus au fin fond de la Bretagne, etc., n'avaient pas la possibilité matérielle d'être traités tout de suite comme on le fait aujourd'hui.
Il fallait pratiquement venir à Paris pour se faire traiter.
Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que dans les 20 premières années, même les 30 premières années, il ne devait pas y avoir des centres antirabiques dans tout le pays. En plus, les vaccins n'étaient pas du tout les vaccins d'aujourd'hui. C'était extrêmement compliqué. C'était des vaccins fabriqués sur cerveau de lapin. Donc j'imagine que leur conservation, leur transport, etc., ne correspondait pas du tout aux vaccins lyophilisés que l'on a aujourd'hui.
Il fallait de nombreux rappels, sans doute, à l'époque.
Ah oui, à l'époque, on faisait au moins 15, 20, 25, voire 30 injections. C'était très difficile pour les patients parce que dans ces vaccins, il y avait beaucoup de cellules de cerveau et de moelle épinière de lapin et donc il y avait des réactions allergiques épouvantables.
Alors, cette pièce se passe dans un phare. On est entouré d'eau. Est-ce que ça joue par rapport à certains symptômes de la rage?
Oui, un des premiers symptômes qui a toujours été décrit de la rage humaine, c'est ce qu'on appelle l'hydrophobie. C'est-à-dire le fait, il y a une paralysie du larynx qui fait qu'on ne peut pas avaler l'eau. Et que très rapidement, comme la rage est une encéphalite, très rapidement, il y a une phobie de l'eau, hydrophobie. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec la mer. Par contre, le personnage peut aussi avoir fait ce qui a été décrit dans la littérature, ce qu'on appelle les rages psychologiques. C'est-à-dire que, sachant qu'il a été mordu par un animal suspect, il peut avoir parfaitement les symptômes de la rage sans avoir la maladie.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre Le Château de la Morlante de André Delorde et Henri Bauche, avec Médondo, Evelyne Guimara, Philippe Mareuil, Vera Feder, Roger Brette, Jacques Berthier, Jacques Maire, René Berthier. La mascarade interrompue de Hélène de Zuylen de Nievelt, avec Jean-François Poron, Philippe Etès, Bruno de Volder, Renaud Marx, Michel Derville, Alain Christie, Anne Deleuze, Dominique McAvoy, Catherine Hubeau. Gardien de phare de Paul Autier et Paul Cloquemin, avec Yves Arcanel et Thierry Ragnaud. Avec la participation de Jean-Marie Montaron. Bruitage, Alain Platiot, Bertrand Amiel. Chef opérateur du son, Pierre Mine, Hervé Leveau, Bernard Charon. Collaboration technique, Serge Ristich. Réalisation Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 avril 1987. Vous pouvez la réécouter et la télécharger en vous rendant sur la page des nuits via franceculture.fr. Thank you.